psaume 119. Et pour situer le contexte, on va lire ensemble jusqu'au verset 78. Psaume 119, du 75 jusqu'au 78. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. J'ai choisi volontairement d'afficher la version ici Semeur, qui me semble traduit le plus près le sens. Je reconnais ou je sais, ô Éternel, que tes décrets ou tes jugements sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous faire remarquer que dans ce court verset, il y a trois principes. Trois principes quant à la souffrance, quant à l'affliction dont peut être l'objet. Trois principes. Le premier, je vois dans ce verset, quand le psalmiste dit « Tes jugements sont justes ». L'Éternel ne commet pas d'erreur dans ses jugements, ou je dirais dans sa manière d'agir avec ses enfants ou son peuple, quand ils font l'objet d'affliction. Ça, c'est le premier principe qui est souligné. L'Éternel ne commet pas d'erreur dans sa manière d'agir avec son peuple ou ses enfants quand ils font l'objet d'affliction. On voit, principe, deuxième principe aussi dans ce verset, Dieu n'agit pas par caprice lorsqu'il afflige. Dieu n'agit pas par caprice lorsqu'il afflige, même s'il permet que ses serviteurs soient opprimés ou maltraités sans cause. Vous voyez le verset 78, c'est pour cela que je veux qu'on le lise ensemble. Dieu n'agit pas par caprice lorsqu'il afflige, même s'il permet que ses serviteurs soient opprimés sans cause, ou en d'autres termes, injustement. Il n'agit pas par caprice, même s'il utilise les orgueilleux, pour le psalmiste ici, les orgueilleux, ou l'insolent, comme instrument pour ses afflictions. Et j'aimerais juste vous faire remarquer que ce psaume est un bon commentaire, si je peux m'exprimer ainsi, de la même pensée, le même enseignement que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 4. Je vous invite à tourner votre Bible dans 1 Pierre chapitre 4 et verset 19. Qui maintenant dans un autre contexte que le psalmiste, vu les siècles qui séparent, qui les séparent. Donc 1 Pierre 4, 19, nous lisons ceci, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, nous allons voir, mais quelle est la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Si vous êtes sur 1 Pierre, rapidement, juste pour montrer le contexte que vivent ces chrétiens ici. Quelles sont les souffrances injustes qu'ils peuvent subir? Vous pouvez voir juste dans 1 Pierre chapitre 4, quelques versets auparavant. Juste le verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous pouvez imaginer si à cause de leur témoignage en tant que chrétien, ils souffrent à cause de l'opprobre de ce nom. Il le dit autrement, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Là, ces souffrances, d'après l'apôtre Pierre, est selon la volonté de Dieu. Mais c'est injuste, lui direz-vous. Regardons encore les causes des souffrances pour ces chrétiens. 1 Pierre chapitre 2, juste verset 18 à 21. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il continue en effet, quel droit y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et il va continuer son argumentation en donnant l'exemple de Christ. Vous voyez, la situation du psalmiste est très bien similaire à la situation des chrétiens que l'apôtre Pierre adresse ses lettres d'encouragement. Les souffrances liées au témoignage, les souffrances liées dans le contexte du travail, si je peux dire ainsi, où on a une hiérarchie, ici, dit de caractère difficile, mais le principe est pareil pour les deux. Et si vous regardez aussi les instruments, comme on a vu dans le psaume 119, verset 75, les instruments utilisés pour cette affliction, c'était les orgueilleux. Et ici, pour les chrétiens où Pierre adresse sa lettre, c'est des non-croyants juifs qui les persécutent. Mais l'histoire montrait aussi que c'est des contextes même de persécution à l'époque de l'empereur Néron. Peut-être ce matin, ou cette semaine plus précisément, vous avez été l'objet d'un traitement injuste dans le contexte du travail. Sachez ces principes que je viens de rappeler, que Dieu ne commet pas d'erreur dans sa manière d'agir quand il permet ses afflictions. Dieu n'agit pas par caprice. Croyez-le vous? Et je voudrais maintenant énoncer le troisième principe qui est mentionné par ce verset du psaume 119-115. L'affliction dans la vie d'un enfant de Dieu est une preuve de la fidélité de Dieu. Je répète, l'affliction dans la vie d'un enfant de Dieu est une preuve de la fidélité de Dieu. Croyez-vous en cette affirmation en tant qu'enfant de Dieu? Avouons-le, nous avons beaucoup de difficultés à admettre que les souffrances qui nous accablent sont la preuve de la fidélité, et je dirais même de l'amour de Dieu. Mais il en est ainsi, d'après cette affirmation. Vous savez que le croyant, il pourrait bien aussi contracter n'importe quelle maladie. Il peut être sujet à la dépression. Il peut subir des pertes, des êtres chers, des pertes matérielles, le chômage. J'arrête là. Il peut subir tous les désagréments que connaissent les non-croyants. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais la question qui se pose à nous est la suivante. Si le chrétien peut souffrir autant que les non-croyants, alors quel avantage d'être un enfant de Dieu? Vous pouvez vous poser cette question. Si le chrétien alors peut souffrir comme les non-croyants, quel avantage de vivre pour Dieu, d'être son enfant? Et j'aimerais suggérer ce matin quelques bases que la Bible nous donne pour nous convaincre à quoi sert la souffrance dans la vie des croyants. Et je voudrais voir avec vous une première raison, et c'est dans Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. À quoi sert la souffrance dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu? C'est pour glorifier Dieu par nos réactions face à la souffrance. Pour que Dieu soit glorifié face à nos réactions par rapport à la souffrance. Tout le monde, et je dirais même les enfants, connaissent très bien l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Mais je voudrais rappeler juste le contexte du verset que nous voulons citer pour appuyer cette vérité, Daniel 3, versets 17 à 18, que nous lirons après, que Daniel fait partie des jeunes juifs qui étaient d'une famille noble et qui ont été exilés de leur patrie pour les amener en Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et à un moment, le roi Nebuchadnezzar a fait une grande statue en or. Et tous ses conseillers, des gens au pouvoir qui l'entourent, étaient conviés à la dédicace pour cette grande statue. Et il était décidé en ce moment-là que, au son des instruments de musique, tout le monde doit se prosterner et adorer la statue. Il y avait trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, face à cette obligation, ont volontairement dit non. Et voilà leur réponse. Quand ils étaient convoqués devant le roi Nebuchadnezzar, à cause de cette désobéissance, il dit face au roi avec assurance et audace, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils avaient le choix entre la soumission au roi pour adorer cette statue. C'était contraire à leur foi. Ils ne reconnaissent qu'un seul Dieu à qui ils leur voient l'adoration. Et ici, on les oblige à se prosterner et adorer la statue. Ou bien la mort par le feu. Et nous venons d'entendre leur réponse. Pas de question. Cela nous amène ce matin, chers frères et sœurs, à nous poser aussi ces questions. Sommes-nous prêts à adorer un Dieu qui est digne que nous souffrions pour lui? Sommes-nous prêts à adorer un Dieu qui est digne que nous souffrions pour lui? Si c'est oui, comme ces trois jeunes juifs qui voulaient adorer uniquement le seul vrai Dieu, nous donnons gloire à Dieu par de telles attitudes. Combien nous sommes sujets aussi dans le monde dans lequel nous vivons à des compromis, n'est-ce pas? Qui peut mettre en danger votre vie de témoignage? Et combien il faut de l'audace à dire non, je ne veux pas de cela parce que je ne veux pas compromettre ma foi et ma crainte dans le Seigneur que je crois. C'est ainsi que nous pouvons glorifier notre Dieu. À quoi sert la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Je pourrais aussi suggérer que c'est pour accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Et je fais référence à l'exemple de Joseph que nous connaissons tous. Joseph, qui, durant les circonstances qu'il a traversé dans sa vie, ignorait tout du dessein de Dieu au moment où il a subi des malheurs, entre guillemets, si je peux dire ainsi, qui l'ont accablé. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Arrivé en Égypte, emprisonné injustement. Et j'en passe, puis élevé en dignité par le pharaon pour s'occuper de tout son empire. Et dans des contextes de famine, ses frères sont venus en Égypte. Et à la fin, quand Joseph a vu ses frères, son père, il a dit, « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La main de Dieu était sur cette circonstance pour le préparer pour cette tâche immense, pour cette délivrance pour son peuple. Il ignorait cela, me semble-t-il, pendant les moments où il traversait l'épreuve. Peut-être aujourd'hui, pour vous aussi, il y a des souffrances, des circonstances où vous ne savez pas le pourquoi. Sachez-le, tout simplement, que Dieu a un dessein, un plan pour chacun de notre vie. Et s'il le faut, que ça passe par les moyens de la souffrance, sachant reconnaître aussi qu'il est souverain dans notre propre vie. Et c'est une des raisons pourquoi il nous fait traverser parfois des moments difficiles, des souffrances. Je voudrais aussi suggérer et faire rappeler que à quoi sert la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Elle nous permet de rappeler que Dieu contrôle la portée et je dirais aussi la durée des souffrances que nous pouvons subir. Vous connaissez l'histoire de cette église en Asie mineure où Jésus-Christ connaît l'état de chaque église et il s'adresse à l'église de Smyrne et nous lisons son constat concernant cette église dans Apocalypse 2, versets 9 et 10. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Si on vous annonce de telles choses, quelle est votre réaction? Comment réagissez-vous? Ici, il s'adresse à cette église et c'est encourageant, me semble-t-il, pour cette église de savoir que l'affliction dont elles vont être l'objet est connue par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un encouragement pour eux. Et ce qui est intéressant dans cette église, et un exemple, ils sont pauvres, peut-être matériellement, mais spirituellement, ils sont très riches. Et quel exemple aussi pour nous. Et notre sujet surtout, c'est que on leur annonce qu'ils vont souffrir, jusqu'à la mort. Pendant 10 jours, une tribulation de 10 jours. Est-ce que cette tribulation veut dire que c'est symbolique de toutes les persécutions que vont subir l'Église dans les siècles? Me semble-t-il que c'est non. Est-ce que ça fait allusion aux 10 persécutions sous des empereurs romains? Me semble-t-il que non. Ce qui est sûr et le plus probable, c'est que il annonce une période de souffrance limitée. Et c'est ça notre encouragement. Dieu est en contrôle de la portée, de la durée des souffrances que nous pouvons endurer. Donc pour cette église, le Seigneur leur annonce une période de souffrance limité. Et c'est lui qui va opérer aussi la délivrance de cette situation. Combien c'est rassurant quand nous sommes dans cette situation de savoir qu'il y a une fin à cette souffrance. Et Dieu est au contrôle dans les moindres détails de ce qui se passe. Et je ne fais que vous rappeler l'histoire de Job que nous connaissons tous. Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, mais c'est Dieu qui a donné les limites à Satan. Vous n'avez pas besoin de tourner votre Bible, mais dans chapitre 1 de Job, verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Dieu qui impose les limites. Et Satan dit, mais oui, mais Job, c'est quelqu'un d'intéressé. Il t'aime, il te sait, il t'adore parce que tu le bénis et tu le protèges. Mais touche à cela, tu vas voir qui va te maudire. Et Dieu lui dit, on lit dans Job 2, verset 6, il dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Épargne sa vie. Chers frères et sœurs, lorsque la souffrance nous brûle, rappelons-nous que c'est Dieu qui garde sa main pleine de grâce, si je peux dire ainsi, sur le thermostat. C'est lui qui garde et contrôle par sa main pleine de grâce le thermostat. Et quel encouragement, je ne sais pas pour chacun de vous ce matin, ce que vous avez pu endurer cette semaine ou dans votre vie. Si vous êtes chrétien, voilà quelques raisons pour nous encourager que la souffrance a sa place et sa raison d'être dans la vie des enfants de Dieu. Quatrième suggestion, à quoi sert la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est pour nous enseigner la persévérance. Pour nous enseigner l'humilité. À vrai dire, la souffrance, c'est comme un éducateur qui nous apprend des vertus, des traits de caractère qui nous seraient utiles dans la vie. Et j'ai été frappé parce que j'ai parlé de Job, et quand on fait mention de Job dans le Nouveau Testament, Jacques dit ceci, et nous disons dans chapitre 5, verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » J'étais un peu troublé, parce que quand on lit le livre de Job, on voyait que Job est passé concernant sa foi à un point et de découragement à un autre, mais jamais, c'est vrai, il a abandonné sa foi dans la grandeur de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et rappelez-vous, est-ce que c'est pas Job qui s'est plaint de ces circonstances à un moment? Est-ce que c'est pas lui-même qui arrive à critiquer la voix de Dieu à son égard? Est-ce que c'est pas lui à un moment, il disait, maudit le jour de ma naissance? Mais malgré tout ça, rappelons-nous, Job n'a pas abandonné sa foi. Même au milieu de son incompréhension, il s'accrochait à Dieu et continuait à espérer en lui. Oh, c'est fort quand il disait, même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui, en parlant de Dieu. Job persévérait quand il avait toutes les raisons d'abandonner. Il persévérait quand il avait toutes les raisons d'abandonner. Et vous pouvez lire encore dans Job 19, verset 25 à 27, c'est poignant. Il était persuadé que la mort même ne l'empêcherait pas de voir Dieu. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Et que quand ma peau sera détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quelle assurance! Il persévérait jusqu'au bout. Non seulement par la souffrance nous apprenons la persévérance, mais nous apprenons aussi l'humilité. L'humilité. Et je cite l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, versets 7 et 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous le savez, l'apôtre Paul a reçu cette révélation personnelle de la part de Dieu, et suite à cela, pour l'empêcher de s'enorgueillir, il lui a été mis cette écharpe dans la chair. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais je dirais, cela a été une médecine préventive contre l'orgueil qui est dans le cœur, qui peut bloquer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et il est très frappant dans l'exemple de Paul ici, que même dans les révélations directes du Seigneur, cela n'a pas transformé la chair en lui, il était toujours là. Et ça n'a pas changé cette nature, toujours orgueilleuse, malgré ce privilège qu'il avait eu. Et donc, ce que le Seigneur a permis dans sa vie, c'était pour éviter l'orgueil dans sa vie. Et combien nous en sommes conscients pour nous-mêmes aussi. Et combien nous avons besoin d'apprendre l'humilité. Et quand Paul a prié à 3 reprises, doté cette écharpe, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh combien chaque jour, par les souffrances que Dieu permet, il nous maintient dépendants de lui. Il nous fait comprendre combien il est important que nous nous appuyions sur ses ressources, toutes suffisantes pour nos besoins et pour ces moments difficiles que nous pouvons traverser. J'aurais pu citer d'autres exemples, mais je me limite à ces deux-là. Mais quelque chose qui est important à dire, que le bénéfice éducatif que nous pouvons en tirer profit des souffrances ne vienne pas comme cela. Si nous voulons tirer profit, il faut avoir la bonne attitude vis-à-vis de la souffrance. Parce que la souffrance peut être bénéfique si nous le voyons comme dans l'optique de Dieu, quelque chose qui nous éduque pour vivre dans un trait de caractère ressemblant à celui de Christ. Mais la souffrance, si nous révoltons face à ces souffrances, ça pourrait devenir une source de malheur et nous courons notre perte. Sachant voir selon l'optique de Dieu les souffrances qui peuvent être dans nos vies et que profitons à ce que par cela Dieu nous transforme, nous apprend à lui ressembler dans ses traits de caractère importants dans la vie, je dirais pas seulement la vie chrétienne mais dans la vie de tous les jours, la persévérance. Combien nous avons besoin d'humilité. À quoi sert la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Je dirais aussi, c'est pour nous aider à réaliser notre besoin des autres chrétiens. Pour réaliser notre besoin des autres chrétiens. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul décrit l'Église comme un corps humain, et il montre l'unité que doit être chaque membre dans ce corps. Et nous voyons ce verset 26 et 27, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et il dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous savez, vous ne dites jamais, oh, mon pied a mal. Mon pied a mal. Mais vous dites, j'ai mal au pied, n'est-ce pas? parce que quand le pied est blessé, c'est toute la personne qui souffre. Et c'est là l'image importante que Paul est en train de montrer par le corps, ce qu'est l'Église. C'est que le corps de Christ souffre quand un de ses membres souffre. Et ça doit être le cas. Et ça doit m'aider aussi à participer, à soutenir un membre qui souffre dans la prière, par des encouragements, pour montrer l'unité que ça doit être l'Église dans son fonctionnement. Combien il y a des chrétiens qui n'ont pas cette optique-là et qui perdent de vue l'importance de l'Église et l'importance qu'il soit dans l'Église. Et quand nous commencerons à comprendre et prendre conscience que les autres croyants peuvent nous apporter des bénédictions et que nous pouvons être une bénédiction pour eux, alors, en ce moment-là, nous pouvons réaliser l'importance, comment le Seigneur a permis que l'Église soit là. Non seulement dans son aspect universel, mais surtout dans l'aspect local. Et la souffrance nous aide pour réaliser que nous prenons conscience des besoins des autres. À quoi sert la souffrance dans la vie d'un croyant? C'est pour nous rendre encore plus forts. J'aime beaucoup, quand j'étais jeune, je courais. J'aime l'athlétisme. Et la Bible utilise beaucoup ce métaphore de la course pour illustrer la vie d'un homme, ou bien le service. Et l'apôtre Paul, vous le savez, utilise cela et il dit, par exemple, pour son témoignage lui-même, dans Actes 20, verset 24, que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que je reçus du Seigneur. À la fin de sa vie, il adresse une lettre très personnel à Timothée, son enfant, je dirais spirituel. Il lui encourage et dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc Paul regardait sa vie comme une course à laquelle Dieu l'avait appelé. Mais vous savez, cette image n'est pas seulement utilisée dans le Nouveau Testament, mais elle est utilisée aussi dans l'Ancien Testament. Et j'affectionne tout particulièrement ce verset dans Jérémie 12, versets 5 et 6. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Dieu s'adresse à Jérémie dans le moment du découragement. Il lui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Et au verset 6, il dit, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père se trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Qu'est-ce que Dieu est en train d'apprendre à Jérémie? Il est en train de lui expliquer que ce que tu endures maintenant, c'est encore peu de choses en comparaison à ce qui t'attend plus tard. C'est-à-dire, la course va devenir encore plus difficile dans l'avenir, plus dure. Mais le seul moyen par lequel je peux te préparer, Jérémie, c'est que tu sois plus fort pour affronter les réalités à venir plus tard. Il explique pourquoi cette réalité qui va être très douloureuse, non seulement le peuple sera contre toi, mais ta propre famille même sera contre toi. Il est beau cette image en parlant du cours, les rives orgueuses du Jourdain. À l'époque, je lisais la géographie biblique, il paraît que les deux rives du Jourdain étaient à l'époque remplies en quelque sorte des buissons. Et dans ces buissons serrés et touffus se cachaient des animaux féroces, des lions, etc. Et il compare ici cet endroit qui est le long des deux rives du Jourdain en comparaison, en contraste par rapport à un endroit plus tranquille. Il dit que si tu es seulement en sécurité là où tu es, comment feras-tu si tu es proche des rives du Jourdain où il y a des lions féroces? Cela apprend encore à Jérémie tout simplement à se rendre compte de son besoin d'être plus fort encore. Et la souffrance est un des moyens que Dieu utilise pour le rendre encore plus fort. Peut-être ce matin vous êtes à bout de force. Peut-être ce matin vous êtes dans le découragement. Posez-vous la question, comment ferai-je quand je traverserai les rives orgueilleuses du Jourdain? Vous savez, il y a une promesse que Dieu donne. Et j'aimerais bien le rappeler dans Ésaïe 40, verset 31, où le prophète Ésaïe disait ceci, pour ceux qui s'efforcent de courir la course de la vie, vous pouvez regarder dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Confiance en l'Éternel renouvelle nos forces. Confiance même quand nous sommes en plein rive orgueilleuse du Jourdain, face au danger. Et c'est le seul moyen que Dieu permette pour pouvoir nous rendre encore plus forts. Nous avons rappelé il y a quelque temps concernant les classes bibliques où nous avons rappelé Timothée, qui est l'enfant spirituel de l'apôtre Paul, quand il lui encourage d'être fort, parce que la vie chrétienne, c'était, nous avons dit, un combat, mais aussi une marche. Nous devions marcher d'une manière digne de Dieu, mais nous devons être aussi dans le champ du combat chaque jour. Ce combat est livré d'abord contre nous-mêmes. Il y a la chair en nous, qui est le traître, qui, toujours là, nous invite à nous incliner, à satisfaire ses besoins au lieu de celui de l'esprit. Mais il y a aussi le monde dans lequel nous sommes, qui ont des principes contre nous. Et nous avons vu dans les exemples Satan, qui ne cesse de nous attaquer. Et combien nous avons besoin d'être forts. Et la souffrance est un des moyens, comme je le vois ici, pour nous rendre encore plus forts, pour que nous soyons plus victorieux chaque jour avec le Seigneur. Et dernier point, à quoi sert la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Je dirais pour nous pousser à chercher Dieu. Le peuple d'Israël, vous connaissez son histoire, à plusieurs reprises, abandonné Dieu par la désobéissance. Et après les souffrances que Dieu permet, ils se repentent, reviennent à Dieu. Et c'est le cas de ce que nous est rapporté par Ésaïe. Et nous lisons dans Ésaïe 26, verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répondus en prière quand tu les as châtiés. Oh combien, quand nous sommes dans le confort, quand nous sommes sans tracas, sans soucis, nous n'avons pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu permet, et assez souvent, grâce à son amour, de permettre les afflictions pour que nous puissions le chercher, que nous puissions être dans sa communion, que nous puissions être dans la relation intime qu'il désire avoir avec nous. J'aimerais citer ce que disait C.S. Lewis. C.S. Lewis, qui est cet Irlandais, qui est reconnu
pour la défense de la foi chrétienne et il a écrit beaucoup de littérature. Et une des choses qu'il disait, et j'aimerais citer, Dieu parle à voix basse dans nos joies, d'une voix normale dans nos consciences et avec clameur dans nos douleurs. La souffrance est le mégaphone de Dieu. Je le récite, Dieu parle à voix basse dans nos joies, d'une voix normale dans nos consciences et avec clameur dans nos douleurs. La souffrance est le mégaphone de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce Dieu d'amour, ce Dieu qui vous aime et qui veut que vous deveniez son enfant. Vous êtes erré dans vos propres voies et vous l'ignorez volontairement, vous êtes rébellé à sa parole. Mais regardez comme un privilège s'il vous permet par les souffrances comme s'il vous parle. C'est le mégaphone qui est en train de vous interpeller, rappeler de revenir à lui. Il peut vous sauver. Si vous vous repentez de vos péchés et vous croyez en lui par la foi, en ce que Christ, que Dieu a donné comme le médiateur entre lui et les hommes, en s'adressant à lui tout simplement par la foi, « Oh Dieu, je t'ai ignoré, j'étais rebelle à toi jusqu'à ce jour, mais tu me parles à travers ta parole. Par cette détresse, je viens à toi. Je me réponds et je crois en ton sacrifice pour me sauver de mon péché. » Vous pouvez le faire dans le silence de votre cœur, ce matin même. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Peut-être il vous est arrivé de vous mettre dans des situations dont vous avez contracté des alliances, des compromis dans votre vie. Vous avez choisi des professions, vous avez choisi des camarades, des amis qui vous éloignent de Dieu. Dieu vous parle par la souffrance aussi. Et je me rappelle, je n'ai pas le temps ce matin, mais je vous invite à le lire sur vous dans le psaume 107. Il y a un cycle pour décrire le peuple de Dieu, le peuple élu. Il s'éloigne de Dieu facilement. Il se rebelle à sa parole. Et Dieu envoie les souffrances, les afflictions. Et il crie à Dieu, il se repent. Et Dieu les rétablit dans des dispositions pour être béni. Et ce cycle recommence. Mais ce qui me frappe, surtout dans ce psaume 107, et je vous invite à le lire chez vous, c'est très riche. C'est que l'homme est prompt à s'éloigner rapidement de Dieu, mais quand il se repente, Dieu est prompt aussi et miséricordieux pour lui pardonner et le restaurer. Et si c'est votre cas ce matin, réalisez dans votre cœur que la souffrance a sa raison d'être dans nos vies. Ce n'est pas moi qui essaie de vous convaincre, laissez-vous convaincre par la parole de Dieu, parce que quelques arguments qui ne sont pas exhaustifs, mais qui est là suffisant, je pense, pour nous rappeler sa raison d'être. Et quand on posait la question, qu'est-ce que ça valait la peine d'être un chrétien si on doit souffrir comme les non-chrétiens? J'espère que maintenant vous réalisez que ça valait la peine. Et on a tout à gagner d'être chrétien malgré les souffrances. Pour terminer, rappelez-vous de l'histoire de Job. Quand Satan lui disait, tu lui as donné tout, tu le protégeais avec ses biens, c'est pour ça qu'il t'aime. Mais touche à ce qu'il a, il va te maudire. Est-ce que Dieu est digne d'être aimé pour ses dons? Ou est-ce qu'il est digne d'être aimé et adoré pour ce qu'il est? C'est là le point clé que le livre de Job nous enseigne. Dieu est-il digne d'être aimé et obéi même s'il ne nous bénit pas matériellement et ne nous protège pas de la souffrance. Dieu veut gagner notre cœur indépendamment de ses dons. Que le Seigneur touche par sa parole nos cœurs et nous interpelle à venir à lui et à ne pas nous rebeller, nous révolter, mais au contraire, reconnaître sa bonté dans ses souffrances qui peuvent permettre que nous le traversions. Amen.